Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine, ralentir travaux au Collège de France. Aujourd'hui, Alexandre et l'Empire perse, avec Pierre Briand, professeur au Collège de France. Pierre Briand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Pierre Briand, titulaire de la chaire d'histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre. Et cet intitulé peut surprendre qui associe donc la longue durée et l'événement, c'est-à-dire un empire dont l'histoire s'étend sur plus de 2 siècles et un conquérant qui traverse en quelques années les territoires des Balkans à l'Indus et ne règne qu'en gros une dizaine d'années. C'est que, Pierre Briand, le temps est révolu, selon vous, où l'on croyait pouvoir expliquer la conquête d'Alexandre sans connaître l'empire de Darius, contrairement à ce que n'avait pas manqué de faire Alexandre lui-même, nous apprenez-vous.
Oui, le titre qui a été donné à cette chaire lorsque j'ai été élu au Collège de France correspond au programme que j'avais alors présenté et correspond à une conviction que j'avais depuis longtemps. Depuis que j'ai vraiment mêlé ces deux histoires qui, d'une certaine manière, en forment deux, mais en forment qu'une, oui. Dans la mesure où je crois que l'histoire d'Alexandre, la conquête d'Alexandre, qui a souvent été isolée pour elle-même et qu'il est encore si souvent, je crois, ne peut être réellement comprise que dans l'arrière-plan de l'histoire macédonienne, bien entendu, de l'histoire grecque et de l'histoire de l'Empire perse. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'étudier la guerre de 14 du point de vue français sans savoir exactement quel était l'état des forces, l'état de l'opinion publique en Allemagne, par exemple. Donc, ce qui vaut pour l'histoire contemporaine vaut pour l'histoire d'Antiquité. Et donc, je crois que, d'autant que la documentation sur l'histoire d'Alexandre ne s'est pas beaucoup renouvelée, et le seul renouvellement possible actuellement et pour les années à venir, c'est d'y faire intervenir tout ce qu'on sait maintenant de l'histoire achéménide, puisque dans les 25 ans qui viennent de s'écouler, justement, l'histoire achéménide a connu une véritable révolution, tout comme d'ailleurs l'histoire macédonienne.
Oui, on revient de loin tout de même sur ce plan. Pierre Briand, vous passez pratiquement toute votre leçon inaugurale à montrer les très lents progrès de l'historiographie donc de l'Empire perse achéménide qui a longtemps été complètement méconnu.
Qui a été complètement méconnu et qui, je l'ajoute, le reste encore du point de vue académique, puisqu'il n'existe pas d'enseignement sur cette période, sur ce temps, sur cet espace-temps dans aucune université au monde, ou pratiquement, à part ma collègue Amélie Courte à Londres, il n'y a pas d'enseignement spécifique. Pourquoi ? Ben, pour des raisons qui tiennent à la tradition universitaire qui a toujours été dominée par la Grèce et par Rome pour l'histoire de l'Antiquité, comme on dit nos racines. Voilà. Et pour l'histoire du Proche-Orient ancien, dominée par les hautes périodes que sont Sumer, les relations avec la Bible, en fait.
Si voilà, voulez, c'est hein, ça.
Les relations avec la Bible. Oui. Et d'autre part, l'Égypte, pour des raisons
évidemment particulières et propres
à l'Égypte.
Absolument. Alors, il y a peut-être aussi quand même des raisons qui ne sont pas seulement d'ordre académique, Pierre Briand, vous en pointez quelques-unes. Alors, tout de même, l'effacement des traces qui est dû en particulier à l'importance de la tradition orale dans cet empire. Et puis alors, l'extraordinaire variété des langues, des codes, des lois, etc. On entre là un petit peu dans ce qu'était justement cet empire.
Tout à fait.
Des grands rois.
Ce qui est vrai, c'est qu'on a là un exemple assez paradoxal d'un immense empire qui a été créé donc à partir d'un peuple qu'on appelle le peuple perse qui vivait dans ce qu'on appelle...
Qui était un petit peuple, dites-vous,
qui était un peuple d'un plateau. Petit pays, si vous voulez dire. Ouais. Quantitativement, qui se situe dans le sud de l'Iran actuel, en province du Fars,
sur le plateau iranien.
Qui a conquis, qui s'est emparé successivement des royaumes qui préexistaient. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que les grands rois n'ont jamais laissé d'annales de leur règne. Et les seules inscriptions que l'on a conservées sont inscriptions d'ordre monumental et officiel qui ne disent pas grand-chose du point de vue narratif, pour ne pas dire rien. Et donc l'histoire narrative se fait surtout à partir des sources venant de leurs ennemis, que sont en particulier les Grecs.
Les Grecs, oui.
Mais ceci n'est qu'un aspect de la chose. L'autre aspect de la
difficulté... héréditaire, presque.
Ce que les Grecs ont tenté de faire croire, effectivement, à partir des guerres médiques dans toute la tradition postérieure. Ce qui a effectivement aussi bloqué ou ralenti les choses, c'est certainement effectivement la difficulté d'appréhender un empire multilingue, multiculturel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des territoires de l'empire, on va de l'Indus à la Méditerranée et du nord au sud, on va des ex-républiques d'Asie centrale soviétique, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc., jusqu'au golfe Persique et jusqu'à la première cataracte du Nil à Assouan. Donc c'est quelque chose de formidable. À l'heure actuelle, ça fait peut-être une quinzaine de pays indépendants.
Oui. Et c'est l'empire d'Alexandre, en gros. Hein.
Ça va être l'empire d'Alexandre, voilà. Puisqu'en fait, Alexandre va reprendre les frontières de l'empire achéménide. Je disais qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est que c'est peut-être ça qui a bloqué la création d'une histoire de l'empire en tant que tel, parce que vous avez des spécialistes, par exemple, des sources égyptiennes, des sources cuneiformes, voilà. Des sources juives, des sources hébraïques, des sources phéniciennes, des sources grecques, etc., qui chacun travaillait un petit peu dans leur coin, et pour des raisons d'ailleurs que je peux comprendre, parce que si on veut aller au plus profond des choses, il faut être philologue, etc.
Il faut délimiter son sujet.
Voilà, exactement. Voilà. Et donc, le rassemblement de l'ensemble de ces sources ne pouvait se faire que par quelqu'un qui était historien, comme je le suis, et qui était, qui avait ce projet. Voilà, ce projet, au fond, de mettre en contact l'ensemble de ces champs.
Le croisement des sources.
Le croisement des sources, et quitte, évidemment, à y aller avec beaucoup de précautions, en demandant l'avis des spécialistes, mais j'ai essayé aussi d'entrer dans les discussions, même assez profondes, dans les différentes sources. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais néanmoins, avec un petit groupe qui s'est constitué début des années 80, international, on peut dire que l'histoire achéménide maintenant existe, du moins dans la recherche, car dans l'enseignement, encore une fois, elle n'existe pas.
Voilà. Alors, le croisement des sources, c'est très, très important, évidemment, Pierre Briand, pour connaître la réalité de cet empire multiculturel, multilinguistique, etc. Et c'est un monde largement inconnu, mais on peut dire tout de même qu'il s'agissait d'un véritable empire constitué comme tel, avec un système de gouvernement, un réseau de communication tout à fait...
Oui, c'était un empire territorial parfaitement organisé, parfaitement bien organisé, c'est-à-dire que le pouvoir central était représenté sur place, d'abord par des provinces qu'on appelle satrapies, commandées par des satrapes qui étaient nommés directement par le grand roi et reçoivent devant lui avec une administration en cascade que l'on connaît bien dans certains pays parce que les archives qu'on a découvertes le permettent de le dire. Par exemple, en Égypte, on a une masse de documents araméens qui permettent de reconstituer l'ensemble de l'organisation administrative de l'Égypte, en Asie mineure également, en Babylonie et en Perse, puisque en Perse, proprement dit, dans le Fars, on a des archives qui sont en voie d'être publiées, les archives des tablettes élamites de Persépolis qui ont été trouvées dans les années 30, qui ne sont pas encore publiées complètement, mais qui sont en voie de l'être. Et donc, on a maintenant une masse de documentation qui permet de comprendre l'organisation des routes. On sait très bien comment les routes étaient organisées, les voyages sur les routes étaient organisés avec des bons de route, des étapes où les voyageurs pouvaient trouver des relais, etc.
Alors, ce qui est intéressant à propos justement du croisement nécessaire des sources et des approches pour appréhender ce monde achéménide, Pierre Briand, c'est que en retour, et là on le verra avec l'image d'Alexandre, en retour, il porte un éclairage un peu différent justement sur l'aventure d'Alexandre.
Ah, complètement. C'est-à-dire que beaucoup d'événements du règne d'Alexandre, ça fait 10 ans, hein, c'est pas long. Ne prennent sens que si on les reporte dans l'arrière-plan, la profondeur de l'histoire achéménide. Encore une fois, pas uniquement l'histoire achéménide, mais de l'histoire achéménide en l'occurrence. Et que, par exemple, si on veut comprendre ce qui s'est passé à Persépolis, eh bien, il faut savoir ce qu'était Persépolis à l'arrivée d'Alexandre. parle. Voilà. Si on veut savoir ce qui s'est passé à Babylone, eh bien, on doit savoir quelles étaient l'organisation des pouvoirs à Babylone, etc. Les grands temples, les grands sanctuaires, tout cela qui était en place à ce moment-là. Et tout cela, on peut le savoir, non pas par les sources grecques qui nous parlent seulement de l'entrée d'Alexandre à Babylone, mais tout ce qu'elle dit ne peut être compris, justement, que si on a cette profondeur de champ que permet l'étude de l'histoire achéménide.
Voilà.
Et donc, dans l'avenir, je dirais, même dans le présent et dans l'avenir, la seule manière de renouveler l'histoire d'Alexandre, c'est essentiellement de croiser deux champs de recherche qui ont tous les deux été bouleversés dans les 25 ans qui viennent de s'écouler, c'est l'histoire achéménide et l'histoire de la Macédoine.
D'autant qu'Alexandre s'est comporté finalement à l'égard de cet empire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il a conservé les cadres politiques, sociaux, économiques existants. Il s'est fondu dans
grosso modo, d'abord, il n'avait pas tellement le choix, mais il avait l'intelligence de la situation parce qu'il connaissait malgré tout de l'intérieur, le fonctionnement de l'empire achéménide. N'oubliez pas que l'Asie mineure, c'est-à-dire la côte Turquie actuelle, est située à deux encablures de la côte de la Macédoine. Le royaume macédonien et le royaume l'empire achéménide étaient pratiquement jointifs, à part l'Hellespont. Donc il y avait des échanges de biens, de personnes, etc. Bon, en fait, Alexandre s'est renseigné, il avait des renseignements avant de venir. Et donc, il a effectivement conservé dans un premier temps et les structures administratives, et en plus il avait besoin absolument du ralliement des élites indigènes, qu'elles soient égyptiennes
ou...
et des élites impériales qui étaient en grande partie constituées par des grandes familles perses et parfois alliées d'ailleurs à des familles locales. Et donc sa politique constante, comme l'a bien vu Montesquieu d'ailleurs, sa politique constante, mais c'est bien expliqué dans les sources anciennes, c'est justement de faire en sorte de prévoir une sorte de transition. Une transition, ce qui n'empêche pas qu'il a inoculé aussi des ferments de transformation.
Voilà.
Mais d'abord, il a voulu reprendre en main et, au fond, ne faire en sorte qu'il n'y ait pas une rupture brutale.
Voilà. Et notamment par une véritable politique concertée d'alliance matrimoniale.
Ah, mais absolument. C'est ce qu'il a montré très tôt, même avant Ennosusus, puisqu'il a épousé une princesse sogdienne bactrienne, dès les années 326. Et en retour de l'Inde, donc à la fin de ce qui va être la fin de sa vie, mais ce qu'on ne sait pas être la fin de sa vie, évidemment, eh bien, à Suse, il organise des mariages grandioses où il lui-même épouse deux princesses issues de la lignée achéménide et il convie, il les force un peu d'ailleurs. Voilà, 80 de ses proches lieutenants à épouser eux aussi des représentantes de la noblesse mède et perse. Ouais. Et donc, bien entendu, il y a tout cela une grande, grande vision politique et stratégique. Dans le même temps aussi, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'armée, on fait fusionner des éléments également de la jeunesse iranienne dans l'armée, ce qui n'est déjà plus une armée macédonienne.
C'est ça.
C'est une armée mixte.
Absolument. Alors, on revient, si vous voulez bien, sur l'Empire achéménide, donc avant la conquête d'Alexandre. On reparlera d'Alexandre et notamment de la figure qui s'est formée à travers l'histoire, ce qui est aujourd'hui votre objet d'étude. Absolument. Pierre Briand. Mais on fait un petit retour en arrière. Donc, nous retrouvons donc un reportage. C'est la deuxième journée du général de Gaulle en Iran. C'était en octobre 1963.
Ce fut ensuite la visite du musée archéologique de Téhéran, construit par un architecte français, André Godard. Ce musée renferme des pièces exceptionnelles issues des fouilles effectuées sur le territoire iranien. Ce fut Louis-Philippe qui, en 1840, envoya en Perse la première mission archéologique française. Accompagné de son guide, M. Mogadam, professeur d'archéologie à l'université de Téhéran, et après avoir visité successivement les sections préhistoriques, islamiques, le cabinet des médailles et la bibliothèque, le général de Gaulle s'est particulièrement attardé à l'examen des vestiges de la période achéménide, vestiges de l'Empire perse de la période de Cyrus et Darius.
Des soldats et des serviteurs. Celui de gauche porte les armes du roi et l'étui du poignard et d'une très grande finesse de travail. Et demain, nous verrons à Persépolis un bas-relief qui est tout à fait identique et qui provient de la cour de la trésorerie.
Demain, en effet, le chef de l'État quitte Téhéran pour le Sud, où il visitera notamment Persépolis.
Voilà, je vous voyais hocher la tête, Pierre Briand. Vous connaissez tous ces
objets ? Oui, bien sûr, je vois très bien de quel relief le guide est en train d'expliquer au général.
Le guide en question, c'est Monsieur Mogadam, professeur d'archéologie à l'Université de Téhéran. Et le reportage nous rappelle donc que ce musée d'archéologie de Téhéran avait été construit par un architecte français, mais également, enfin ce que le reportage ne dit pas, c'est que la conception de ce musée est due également à un archéologue français.
Oui, c'est monsieur Godard qui est cité dans le reportage, n'est pas seulement architecte, il était archéologue.
D'accord.
Et c'est donc aux autorités françaises que les autorités iraniennes de l'époque avaient demandé de construire un musée qui, pour eux, c'était le premier grand musée national iranien, ce qui s'appelle aujourd'hui le musée archéologique d'ailleurs, et dans lequel on pouvait retrouver beaucoup de traces de l'époque hachémide, effectivement, dont ce relief d'audience que M. Mogadam essaie d'écrire auprès du général de Gaulle en rappelant qu'il y a un relief identique qui est conservé encore à Persépolis, celui du musée est en meilleur état. Donc effectivement, c'est une chose très très importante pour l'Iran que ce grand musée qui est maintenant à Téhéran.
Alors, c'est l'occasion de parler de votre musée virtuel, Pierre Briand.
Absolument. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de la dispersion des données à l'intérieur d'un espace aussi vaste que l'est actuellement l'Empire hachéménide, d'autant que beaucoup d'objets ont été transportés dans beaucoup de musées du monde, en Europe, bien sûr, au British Museum, au Louvre, à la Bataille des Médailles, etc., et dans bien d'autres musées. Et donc, l'idée m'est venue très tôt, d'ailleurs, il y a déjà presque 10 ans, l'idée m'était venue que, pas via Internet, on pourrait créer un musée qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais en dur, mais la seule manière de rassembler, c'est-à-dire d'abord de rassembler un patrimoine unique au monde, dispersé, que personne ne peut jamais voir, sauf en faisant 20 étapes dans le monde,
et encore.
Donc de rassembler ce patrimoine et en même temps de le mettre à disposition de tout le monde. C'était Internet. Et donc j'ai commencé à réfléchir, on a commencé à travailler, j'ai eu la chance de rencontrer un informaticien qui s'est passionné pour le projet et qui a passé tout son temps de recherche là-dessus, c'est José Pomar, je vous le nomme, qui met des conférences en génie informatique à Paris 13. Également un web designer, pour parler français, qui a créé là une très belle interface qui est Philippe Bertin. Et puis j'ai eu la chance.
De l'arborescence également, bien conçue. Oui.
Absolument. Et j'ai eu la chance donc de disposer au Collège de France de personnel extrêmement important, dévoué, qui a beaucoup travaillé, Marie-Françoise Clergeau, Salima Al-Arabi et bien d'autres, qui ont beaucoup travaillé sur et donc aussi de disposer de collègues étrangers qui font partie du comité de pilotage, mais aussi j'ai pu très très rapidement obtenir la collaboration des plus grands musées du monde, sans aucun problème. C'est vraiment, la collaboration a été acquise très vite. Le British Museum, le Louvre, la Bibliothèque des Médailles, des musées américains, des musées allemands, des musées hollandais, des musées suisses et bientôt d'autres musées dans le monde. Et donc, on a pu réunir comme ça plusieurs milliers d'objets avec des photos de haute résolution qui permettent à la fois de s'introduire à la situation de l'Empire hachéménide et pour les chercheurs, proprement dit, grâce à des outils qui ont été mis en place spécialement, de faire des agrandissements, des zooms, de tout ce qu'ils veulent, de comparer les objets, donc de travailler depuis chez eux, d'une manière. Et donc, je veux dire que les réactions que j'ai eues de la part des collègues sont assez enthousiastes.
Donc, un site, finalement, qui s'adresse à la fois au public
il y a des entrées grand public qui permettent, grâce à des films d'animation, de se mettre très vite au courant de ce que c'est l'Empire hachéménide. Et puis, il y a la beauté des images, il y a tous les renseignements qui sont permis et qui sont accessibles à travers ce musée, qui ne va cesser dans les années à venir de grossir.
www.museum-achemenet.college-2-france.fr.
Oui, je conseille plutôt aux éditeurs de taper dans Google Mavi, M-A-V-I, et ils auront directement l'accès au musée. Et là, ils pourront faire un favori. Voilà. Ils n'auront pas à retaper cette URL un peu difficile. Et je pense qu'ils pourront aussi avoir la référence sur le site de France Culture et sur le site du Collège de France.
Voilà. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, on revient donc à l'histoire et à vos travaux, Pierre Briand. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que justement, cet effacement, on va dire, de l'histoire achéménide, il est dû aussi à une raison. très générale, celle dont parle par exemple Edouard Said dans l'Orientalisme, c'est justement cette sempiternelle, cette éternelle question des rapports entre l'Occident et l'Orient.
Absolument. Et bon, pour parler du livre d'Edouard Said qui m'a, moi, beaucoup influencé, continue à me influencer malgré les critiques dont il ne cesse de faire l'objet. C'est vrai que j'avais toujours été frappé dans le livre d'Edouard Said que, mais c'est pas un reproche, hein, il a fait un choix, il connaissait mieux certaines périodes que d'autres, qu'il n'a jamais, pratiquement, l'historiographie d'Alexandre n'entre jamais en ligne de compte
c'est
dedans.
Vrai, oui.
Alors que c'est
fondamental.
Souvent, c'est pas fondamental, mais c'est un chapitre oublié, mais extraordinairement éloquent.
Oui, et puis,
de l'histoire de l'orientalisme.
Sur la durée.
Parce qu'on peut le comprendre depuis l'Antiquité, puisque les rapports entre l'Orient et l'Occident sont posés dans une forme européocentrique dès l'Antiquité grecque. Hein. Il suffit de lire les auteurs grecs pour le savoir. Et puis c'est repris à l'époque, disons, la création de l'Empire ottoman, essentiellement. Et c'est repris à travers toute l'historiographie d'Alexandre. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé mon cours depuis quelques années Histoire d'Alexandre et Histoire de l'expansion et de l'identité européenne.
Voilà.
Parce qu'à travers la lecture de l'histoire d'Alexandre, non pas seulement en France, mais en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, etc., on peut saisir réellement comment s'établissent la vision des rapports entre l'Orient et l'Occident. Et ce qui est le plus intéressant, ce que je n'ai pas encore traité en cours, mais que j'ai abordé dans des conférences, c'est que l'assimilation est faite explicitement. C'est-à-dire que, d'abord, le premier à avoir fait, c'est Machiavel, donc ça ne remonte à très loin, mais l'assimilation entre l'Empire perse de Darius, décadent, donc,
voilà.
Forcément,
voilà.
Et l'Empire ottoman. Et on a beaucoup de textes où on voit très bien que l'assimilation s'est faite soit implicitement, soit on superpose les deux situations, si vous voulez. Et donc on est dans une situation où l'Empire perse de l'Antiquité, par rapport à l'Europe, est vu comme dans le rapport entre l'Empire ottoman et l'Europe, l'Europe et l'Empire ottoman. Je me souviens par exemple d'une phrase d'un auteur allemand vers 1830, un historien très connu, qui dit, voilà, et qui pense que en réfléchissant sur les victoires d'Alexandre, eh bien on peut prédire ou prévoir ou annoncer déjà la chute de l'Empire ottoman. Vous voyez, il fait le rapport direct, et le rapport direct est souvent fait parce que, eh bien, les rois perses de l'Antiquité sont vus comme des sultans vivant dans leur sérail, au milieu de l'amollissement général, etc. Et donc, il y a vraiment une espèce d'assimilation tout à fait intéressante. Et c'est donc, à travers l'histoire d'Alexandre, c'est aussi l'histoire de l'Europe. Non, pardon, la vision européenne, de l'Orient.
De l'identité.
Qui défile.
Oui, c'est voilà. Ça. Voilà. Alors, en particulier, soyons précis, puisque tout de même, cette conquête d'Alexandre, elle s'est faite en quelques années.
Hein, oui.
C'est un immense territoire qui a été conquis assez rapidement. Et alors, une des raisons, effectivement, avancées à cette vitesse de la conquête, c'est la décadence du monde achéménide, un poncif qui revient perpétuellement, et qui sera en particulier instrumentalisé au XIXe siècle dans le cadre justement de la colonisation de l'Afrique du Nord.
Absolument. La décadence de l'Empire perse, c'est aussi la décadence de l'Empire ottoman.
L'idée qu'Alexandre apporte la civilisation, en gros.
C'est l'idée que Alexandre est comme disent plusieurs historiens du XIXe siècle, c'est le premier conquérant européen qui s'est emparé de l'Asie. Le premier. Donc ça en dit long déjà, c'est le précédent. Et le précédent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient inoculer dans une Asie léthargique, forcément, qui est gagnée par le despotisme asiatique, qui vient inoculer...
Despotisme oriental.
Oriental,
hein,
qui vient inoculer les ferments du progrès. Les ferments du progrès, et cela apparaît dès le XVIIIe siècle, hein, en Europe. Hein, si on lit Condorcet, par exemple, c'est tout à fait clair, il le dit expressément, et bien d'autres le disent. Au XIXe siècle, lorsqu'on regarde les manuels d'enseignement en particulier, on se rend compte que les deux choses sont mises en parallèle, et Alexandre devient un précédent de la conquête coloniale, pas seulement en France, en Angleterre également, évidemment, et dans toute l'Europe, parce que on considère que c'est le premier conquérant qui vient apporter le progrès à une Asie qui en a besoin. Et donc, finalement, ça justifie aussi une autre articulation du discours colonial. C'est en fait que, expressément ou non, au fond, on a été appelé à aller là-bas par des populations qui voulaient se libérer du despotisme et qui voulaient accéder à la culture européenne.
Ouais, ouais. Une vieille histoire.
Une vieille histoire, mais qui est très, très, très vivante encore.
Et absolument. Alors, une étape, Pierre Briand, dans cette formation, on va dire, de la figure d'Alexandre, c'est donc dans L'Esprit des lois de Montesquieu, dont voici un extrait.
le projet d'Alexandre ne réussit que parce qu'il était sensé. Et non seulement le projet était sage, mais il fut sagement exécuté. Il ne songea qu'à unir les deux nations, grecques et perses, et à faire perdre les distinctions du peuple conquérant et du peuple vaincu. Il abandonna après la conquête tous les préjugés qui lui avaient servi à la faire. Il prit les mœurs des Perses, pour ne pas désoler les Perses, en leur faisant prendre les mœurs des Grecs. Rien n'affermit plus une conquête que l'union qui se fait de deux peuples par les mariages. Alexandre prit des femmes de la nation qu'il avait vaincue. Il voulut que ceux de sa cour en prissent aussi. Le reste des Macédoniens suivit son exemple. Il songea à faire dans la Perse un grand nombre de colonies grecques. Il bâtit une infinité de villes, et il cimenta si bien toutes les parties de ce nouvel empire qu'après sa mort, dans le trouble et la confusion des plus affreuses guerres civiles, après que les Grecs se furent, pour ainsi dire, anéantis eux-mêmes, aucune province de Perse ne se révolta. Il semblait qu'il n'eût conquis que pour être le monarque particulier de chaque nation et le premier citoyen de chaque ville. Les Romains conquirent tout pour tout détruire. Il voulut tout conquérir pour tout conserver. Et quelques pays qu'il parcourut, ses premières idées, ses premiers desseins furent toujours de faire quelque chose qui pût en augmenter la prospérité et la puissance.
Un extrait de « L'esprit des lois » de Montesquieu, un texte d'une belle lucidité, même si la charge contre les Romains est peut-être un peu excessive.
Oui, mais comment dirais-je, le discours sur Alexandre entre dans un groupe plus global où, comment dirais-je, Montesquieu réfléchit sur ce qu'on appelle la monarchie universelle, oui, contre laquelle il s'oppose violemment. Et donc c'est une des raisons pour laquelle il s'oppose aux Romains, et que pour lui, l'exemple même de la modernité de l'Antiquité, c'est Alexandre. Et dans ce texte qui vient d'être lu, en réalité, on a l'acte de naissance de l'historiographie moderne d'Alexandre. Mmh. La figure européenne moderne d'Alexandre, elle n'est pas au XIXe siècle, comme on le dit trop souvent, elle naît au milieu du XVIIIe, en 1748, avec l'esprit des lois. Et nous avons ici, en fait, tout ce qui va faire le portrait positif d'Alexandre dans les siècles à venir, qui va être récupéré dans des visées qui ne sont pas celles de Montesquieu au demeurant, mmh, et qui va fonder vraiment, c'est le point de départ de l'historiographie moderne d'Alexandre. Jusqu'ici, si vous voulez, Alexandre, c'était essentiellement le modèle héroïque qu'on adoptait ou qu'on...
modèle épique.
Oui, voilà. Qu'on adoptait ou qu'on refusait, parce qu'au XVIIIe siècle, on refuse. De plus en plus, on refuse totalement le modèle de l'héroïsme tel qu'il était transmis, en particulier à travers Alexandre. Et la démolition de l'héroïsme, comme on l'a dit. Et on passe... Mais Montesquieu, lui aussi, est contre l'héroïsme. Mais... Néanmoins, il transforme.
Oui, il met l'accent
sur l'aspect positif, transformateur. Et comme il le dit ailleurs, une conquête ne se justifie que si le conquérant apporte des bienfaits, transforme positivement les populations conquises. Or, c'est là la justification de la conquête d'Alexandre. Mmh. Comme le dit Montesquieu aussi, lorsque un conquérant s'empare d'un nouveau pays, il a une dette. Une dette à l'égard des populations conquises. Il faut qu'il rende cette dette par des bienfaits. Il va améliorer la situation. Il va libérer les populations, etc. Il va accumuler des bienfaits sur les populations. Voilà la justification. Et c'est la raison pour laquelle Alexandre est aussi un conquérant moderne, même si, de principe, Montesquieu est aussi le conquête, parce que aussi, qu'est-ce que fait Alexandre? Il ouvre des routes, il ouvre des voies nouvelles, il ouvre des politiques nouvelles, en particulier, il ouvre, évidemment, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, c'est pas étonnant, il ouvre la route de l'Inde, et la route de l'Inde entre l'Inde et la Babylonie à travers le golfe Persique. Et lorsqu'on pense à l'importance du commerce de l'Inde, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, Montesquieu fait la référence lui-même à son époque. Hein. On voit très bien pourquoi cette route de l'Inde a pris autant d'importance à partir de ce moment-là, et pourquoi d'ailleurs cet aspect de l'histoire d'Alexandre va être autant étudié aussi en Angleterre.
Voilà. Ah oui, en Angleterre également.
Oui. Tout à fait.
Et donc, cette image d'Alexandre, oui, elle va perdurer, Pierre Bonnet.
Elle va perdurer avec une autre image, parce qu'il y a, deux images. Il y a une image qui est très ancienne, une image très, très négative contre Alexandre, qu'on condamne pour avoir détruit les populations, pour avoir massacré des millions d'hommes, comme disait Rollin. Cette image continue à courir un petit peu, si vous voulez. Elle réapparaît à l'heure actuelle dans le monde anglo-saxon pour des raisons raisons qui tiennent, je crois, essentiellement à une vision anticoloniale, si vous voulez, dans le monde anglo-saxon. Et donc, on veut condamner Alexandre pour ces mêmes raisons, qui sont des raisons qui n'ont pas de sens. Je veux dire, ce sont des raisons morales. La morale en soi, je ne suis pas contre, mais je veux dire qu'elle doit être adaptée. Il faut se souvenir de ce qu'étaient les conditions dans lesquelles vivait Alexandre, du temps dans lequel vivait Alexandre. Mais disons que cette image politique d'Alexandre, qui est celle qui court partout maintenant, qui est celle qui est dominante, eh bien, elle existait déjà sur l'Antiquité, mais dans une moderne, c'est Montesquieu qui l'a créée.
Merci Pierre Briand. D'où l'intérêt, effectivement, d'étudier le monde achéménide pour rectifier cette image et la restituer à elle-même.
Absolument.
Merci. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez notamment publié Histoire de l'Empire Perse chez Fayard, un ouvrage de référence. Darius dans l'ombre d'Alexandre, également chez Fayard. Vous avez dirigé avec Rémi Boucharla l'archéologie de l'Empire achéménide, nouvelle recherche, acte du colloque organisé au Collège de France, et c'est chez De Bocard. C'est donc le quatrième volet de cette série Ralentir Travaux consacrée au Collège de France, texte lu par Guy Chapelier. À la console aujourd'hui, Jacques Vincent, Les Chemins de la Connaissance, une émission de Jacques Munier réalisée par Doria Zénine.